donner un autre exemple dans un autre domaine, bien comprendre les choses. Le modèle collaboratif a toujours existé. Des fourriéristes au Saint-Simonien, la pensée des utopies socialistes du 19e siècle, et la coopérative agricole. C'est un modèle collaboratif qui a toujours existé. C'est quoi la coopérative agricole? C'est que 30 agriculteurs n'ont pas les moyens de s'acheter une moissonneuse-batteuse à 600 000 euros. Alors que font-ils? Ils créent une coopérative, chacun met un peu de sous, et après ils se prêtent la moissonneuse-batteuse. La logique collaborative a toujours existé, mais elle a toujours été minoritaire. Comme l'a rappelé Grégoire, la structure hiérarchique des théâtres, je ne raconte pas la musique classique, la danse. La logique collaborative a toujours existé, mais elle a toujours été, vous voyez, toujours été mis de côté.
Là, c'était dans le mouvement de l'éducation populaire.
Tout à fait, c'est l'éducation populaire, c'est tout ça. Tout à fait. Ce qui est en train de se passer, c'est que la dimension collaborative est en train de devenir le modèle principal. C'est ça qui est en train de se passer. Donc oui, ça a une histoire, mais là, ça devient structurel. Et pas épisodique.
La question que pose, c'est...
Ah, écoutez, le mandat politique d'Anne Hidalgo, si je voulais, je pourrais vous fournir son projet de Smart City, est entièrement tourné autour du thème vie collaborative et tiers-lieu. Ça veut dire quoi par rapport à Paris? Ça veut dire que chaque quartier parisien est un lieu de proximité avec des tiers-lieux qui va créer une synergie citoyenne. Chaque quartier, un réseau peer-to-peer distribué, sans centre, de tiers-lieux interconnectés sur la ville de Paris. Révolutionnaire. Tiens, vous avez entendu parler de la faillite de la ville de Détroit aux États-Unis. Ouais, dans l'histoire urbaine, c'est un choc monstrueux, je peux dire, pour les urbanistes, les architectes. La faillite d'une ville comme Détroit, ça a été un choc, mais comme un tsunami. Cette ville était en faillite. Ils s'en sont sortis? Ben oui, ils s'en sont sortis parce que quand on n'a plus rien, l'imagination travaille. Comment faire avec pas d'argent? C'est ça un tiers-lieu aussi, c'est comment faire avec rien. Il n'y a pas d'argent, on crée un tiers-lieu. Eh bien, ils sont entrés sur cette logique de collaborative, groupe collaboratif, création de tiers-lieux sur Détroit, et la ville réapparaît à travers l'humain et plus du tout à travers les technologies. Les technologies ne sont que des outils. Donc je sais que c'est en devenir.
Et les murs n'ont plus de valeur. Et les murs n'ont plus de valeur. Parce que toute la force de Détroit, c'est justement de donner ces murs. Et de créer des forces de
valeur. Alors ça, c'est passionnant. C'est encore un sujet en conférence. En soi, l'abandon de l'idée de propriété. Les jeunes générations, parce que vous êtes tous des vieux ringards, je suis mort. Mais moi, j'ai un gosse qui a 20 ans. On a un petit aussi, c'est une créature cyborg. Mais celui qui a 20 ans, il est né avec le numérique. C'est ce qu'on appelle un digital native. Il est né à partir de 95, avec les sociologues et notes. Que tout enfant né à partir de 95 est un digital native. Il a une culture numérique, il a une culture du réseau, SMS, etc. Et je lui dis, t'as 18 ans, c'est 18 ans, je lui dis, tu vas passer de permis de conduire, puis on va t'acheter une voiture. Vous savez, on passe pas. Ouais, le permis, moi, ça peut servir, on va acheter une voiture, ce truc, je t'emmène d'un point à un point B, je m'en fous. Alors, la semaine dernière, il va à comment il s'appelle, officiel? Vieille chambre. J'ai dit, il va dans les festivals de rock, j'ai dit, mais tu vas comment au festival? En covoiturage. Alors pour moi, je sais ce que le covoiturage, bien sûr. Mais pour lui, c'est banaliser à l'extrême. S'acheter une voiture, dépenser, gérer la bagnole, alors que je peux aller en plus rencontrer des gens en covoiture. On rencontre des gens en covoiturage. Dans les jeunes générations, l'idée de propriété s'effrite. Tu as raison, Grégoire. La très grande idée de Détroit, c'est de dire les murs, on s'en fout. L'important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les murs, quel service proposé, quelle vie, quelle ambiance est française. La notion de propriété est en train de s'effriter dans l'histoire. L'idée d'être possessif, de posséder quelque chose. Alors, il y a quand même un théâtre qui a été très innovant ces derniers temps. Sérieusement, il y a quelqu'un dans le théâtre? Pourquoi vous voulez la main là? C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un du théâtre Nanterre à Mandier? Non? Vous avez entendu parler de ça?
Oui.
Très joli titre, le théâtre des négociations. Je pense qu'en France, c'est le premier acte de quelque chose de fondateur. Parce que regardez quand même, Sciences Po, Nanterre, propose expérience politique, diplomatique, scientifique, pédagogique, artistique, une simulation des négociations sur le climat avec 200 étudiants du monde entier. C'est ça, la société collaborative. C'est ça, la société collaborative. Eh bien, c'est sûrement le premier théâtre à produire ça. Alors, maintenant, des propos plus personnels. Moi, je pense qu'on est dans un changement de civilisation. On est dans un développement effréné des sciences. Jamais les sciences ne se sont autant développées dans l'histoire de l'humanité. Nanotechnologie, biotechnologie, sciences cognitives, intelligence artificielle. On en entend parler partout. Jamais le progrès, enfin, on va pas employer le mot progrès. L'évolution des sciences n'est aussi foudroyante. Le problème, c'est que ces sciences et ces technologies, elles sont invisibles au grand public. Elles sont invisibles. Les nanotechnologies, la génétique, l'intelligence artificielle, c'est des choses que le citoyen ne perçoit pas, ne comprend pas, n'a même pas conscience. Pour moi, le rôle des lieux de théâtre, des lieux théâtraux et des espaces d'accueil, c'est un rôle de sensibilisation des populations aux mutations du monde contemporain, au changement de modèle, hein, au changement de vision du monde. Parce que comme vous l'a rappelé Anne tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle une fracture numérique. Mais c'est bien plus qu'une fracture. C'est une fracture sociale, très lourde, très dense, qui n'est pas liée qu'à l'économique. Comme dans tout changement de civilisation fait des morts. Des morts physiques, des guerres, des morts symboliques, des morts psychologiques. Si les gens ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver, ces changements, alors les gens dans les quartiers, comment vont-ils s'en sortir? Comment vont-ils comprendre? Comment une famille avec des enfants va se dire, bah, tiens, pour un avenir professionnel de mon enfant, il faudrait qu'il aille plus vers les sciences de l'information parce que là, il est sûr de trouver du travail. Qui va lui faire comprendre ça? Eh bien, je pense que les halls, les agora des théâtres sont des lieux de débat, des lieux où il faut faire venir justement des makers, des hackers, des sociologues, toutes sortes de gens, exactement comme Nanterre Arrondir l'a fait autour du climat. Il y a des tas de sujets à traiter passionnants. Alors, voilà, alors là je vous ai mis une citation de Plébéa. C'est un très grand sociologue allemand, merci au David Maillot, parce que c'est David Maillot qui avait organisé un colloque sur ville et théâtre, très 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 intéressant, très intéressant. Et Dirk Becker, c'est un très grand sociologue, vraiment, un jeune sociologue allemand de très haute volée. Vous lirez ce qu'il vous dit. Et puis voilà, j'ai fini. Vous voyez. Maintenant, à vous jouer. Merci beaucoup. Merci.
Mais ils ont eu un problème pour la validation des textes. Il fallait que ce soit une personne qui détienne le savoir qui valide chacun des textes. C'est-à-dire que ça, si j'ai bien suivi, ça n'a pas abouti. Et résultat, je suis d'accord qu'ici, nous, on a tous très envie d'avancer. Mais je ne sais pas vous, mais moi, dans ma structure, qui a beau... La Villette.
Paris-Villette.
La Villette Grand Gueule. Donc, mon président a envie de transformer nos folies en Fab Lab, donc on va avancer probablement, mais on reste, je pense, bloqué sur plein de points.
Oui.
Au niveau de la programmation, par exemple, à des personnes qui s'obstinent que eux, ils ont le savoir, et que le public n'est pas à la hauteur pour participer. Et du coup, cette implémentation du collaboratif, j'ai pas l'impression que ça arrivera demain dans les théâtres.
C'est normal, puisque les deux civilisations s'entrechoquent. Donc c'est normal que des gens qui ont une vision du savoir hiérarchisé liée à l'idée du scientifique, du contrôle scientifique, de l'expertise, de la spécialisation, c'est normal que ces gens voient d'un très sale œil des groupes de citoyens qui n'ont pas de culture, c'est normal. Ça va mettre des années. Ça va mettre des années. Il y a un rapport à construire, il y a quelque chose à construire. Ça n'enlève pas la valeur de l'expert et du scientifique, si vous voulez. Mais c'est un dialogue entre les scientifiques maintenant et des gens qui produisent du savoir aussi. Il faudra 10 ans ou 15 ans. Donc vous n'avez pas fini de vous frotter. C'est normal. Moi, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Est-ce que ça vous parle?
Je sais pas, moi. Je voudrais revenir sur l'aspect collaboratif. En fait, vous parliez des théâtres, en fait, des agora, qui devaient être le lieu de l'échange. Parce que j'ai assisté à une rencontre avec Guy Birnbaum, qui a sorti un livre assez récemment sur une déception. Vous m'avez manqué, en fait, le titre de son livre. Il parle de sa dépression.
Mais j'ai pas entendu
Guy Birnbaum, qui est journaliste. Il parle de sa dépression, mais il parle surtout de la dépression française, en fait, que lui voit. Et
vous êtes sûr que ça marche ?
Oui, normalement, c'est peut-être mais. Et il parle donc de sa dépression, finalement, et de, il fait le parallèle avec la dépression qu'on traverse, si on peut dire, au niveau de la France. Mais il témoigne, en fait, que lui se rend compte que les populations qui sont on va dire socialement les plus touchés par la crise, sont celles qui sont presque les plus connectées parce que cette collaboration leur permet de toucher directement des journalistes, d'interagir directement avec des personnes qui sont encore, on va dire dans le haut de la pyramide, avec leurs maigres moyens, et que même parfois, c'est le dernier abonnement qui est coupé, cet accès à Internet, parce qu'ils ont tout coupé, ils ne mangent plus, ça ne vit plus, mais ils gardent cette connexion, et que toute cette population, on va dire, qui vit dans une brique d'information, qui se nourrit, on va dire, de discours politiques assez haineux et autres, finalement, n'a plus que ça. C'est ce dernier lien, et finalement, qu'elle ne sort plus de chez elle. Faire le pont entre cette agora, ce lieu d'échange, et finalement, c'est ces populations qui ne sortent plus, enfin qui n'ont pas les moyens de sortir, que ce soit intellectuel ou les moyens financiers, voire les moyens au niveau du temps, parce que sortir entre leur travail, leur temps de trajet, etc. Comment concilier en fait ces deux choses collaboratives?
Ce que vous démontrez, c'est un des effets pervers et négatifs du numérique. C'est-à-dire en le renfermant sur soi, l'interconnexion avec des individus que je ne vois jamais, tout ça pour moi c'est lié à l'éducation. C'est le rôle du ministère de l'éducation. Le rôle du ministère de l'éducation, et notamment chez les jeunes générations, et avec Oriane, ma collègue, on s'occupe des pratiques numériques des jeunes sur plusieurs territoires, c'est un gosse, il va jouer à Minecraft, être sur les jeux massivement multijoueurs, utiliser Facebook, Snapchat, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Il va en permanence produire des SMS, que ce soit des flux d'informations en temps réel. Il est capable de gérer multi-flux en temps réel, mais en même temps, il ne comprend pas les enjeux. C'est-à-dire qu'il est très fort technologiquement, mais il n'a pas la compréhension des enjeux autour du savoir, de l'éducation. Et ça, il n'y a que l'éducation nationale qui peut... Enfin, l'éducation nationale, les médiathèques, les théâtres... La question, c'est l'éducation. La réponse, c'est l'éducation. Il n'y en a pas d'autre.
Du coup, parallèlement, vous envisagez aussi la mutation du métier d'enseignant, parce qu'on n'est plus du tout dans une logique du savant qui donne du savoir.
Tout à fait, ça s'appelle la pédagogie inversée.
Oui, voilà.
Révolution de l'histoire de l'éducation et de la pédagogie aujourd'hui. Hein. Révolution, il y a encore un énorme colloque à Los Angeles là-dessus. C'est effectivement. Vous voulez que je vous donne mes cours de fac ? C'est très concret. Vous allez voir, c'est très concret. Il y a 3 ans, je commence un cours de fac. Alors, je rentre toujours par l'arrière de l'amphithéâtre, parce que je vois les interfaces des machines. Alors, c'est sciences de l'information, web design éditorial, c'est les Master 2. Je descends et je vois leur interface. Hein, Facebook, je suis en train de faire mon cours. Donc, je commence mon cours et je dis, le 16 juin 1965, Joseph Licklider écrit un livre... et le présente au MIT, le 7... Monsieur Oui, Jérôme. C'est pas le 16 juin, c'est le 13, je viens de vérifier. Contrôle de mon cours en temps réel. Tous sur Google, la moindre phrase prononcée, le moindre nom propre, la moindre image montrée, contrôle, je suis sorti de ce cours, j'ai fait une chose que je ne fais jamais tout seul, je suis allé dans le premier bar, j'ai demandé un dîner que j'ai avalé d'un seul trait. Et je me suis dit, comment je vais faire mes cours à la rentrée? Vous voyez? Alors j'ai réfléchi, j'ai une idée. Et puis, la rentrée arrive, au mois d'octobre, parce que les étudiants vont au mois d'octobre, et je commence mon cours. Et là, je dis, Joseph Licklider, le Jérôme, tu peux me chercher?
Tu peux me chercher la date, s'il te plaît. Tiens, Hélène, passe-moi, va me trouver une photo de Luke Leader. Et toi, Eric, tu vas me trouver sa thèse de doctorat publiée au MIT Press en 64. Ok ? Qu'est-ce que j'ai fait de mes étudiants ? Des collaborateurs, des contributeurs. Et ils sont ravis, ça n'a que des effets positifs. Moi ! Moi, je suis comme dans la vie, on est dans un bateau, je dis c'est par là qu'il faut aller. Et voilà la carte, allez-y les gars. Donc je fais ça. Et eux, ils m'apprennent. Le prof apprend, j'apprends plein de trucs. Parce qu'il y en a une qui a trouvé un truc très rare, j'ai pas eu le temps de chercher. Hop, viens vers ici, toi. Ah, tiens, donne-moi ça aussi. Crowdsourcing. Donne-moi ça. Révolution pour l'histoire de la BD. Et bien faites la même chose avec vos spectateurs. Croyez-moi, dans les spectateurs qui viennent, ce sont des guidables, ce sont des anonymes. C'est quoi la ville finalement? La ville, c'est un système symbolique commun. On a plusieurs systèmes symboliques dans lesquels on vit. La famille, hein, notre famille, alors, ce que nous repère. Et puis on a aussi la tribu, si on fait partie d'une tribu. La caste, si on fait partie d'une caste. Si on est, je sais pas moi, Hells Angels, ou adopte, des cornichons, ou faisant partie de l'association des adorateurs de mayonnaise, etc. On fait partie d'une tribu comme ça, qui sont en fait des réseaux sociaux d'origine. La ville construit un cadre symbolique commun. On a des codes communs. On est anonyme. Je ne vous connais pas, je ne me connais, on ne se connaît pas du tout, mais on est dans un espace urbain où il y a des codes communs qui font qu'on peut se rencontrer et finalement parler. Eh bien, le théâtre doit aider à construire ces codes communs, à construire une communauté. Si je vous dis en termes de stratégie de communication que vous ne vous adressez pas à des spectateurs, vous vous adressez à une communauté de spectateurs autour du théâtre. C'est le principe de Twitter. Qui a un compte Twitter? Bien. Moi aussi. C'est le principe de Twitter, vous avez des abonnés. Eh bien, une communauté se crée, va se créer autour de vous. Si Nietzsche, viens de finir comme ça, si Nietzsche existait aujourd'hui, 70% de l'œuvre de Nietzsche, ce sont des fragments. Fragments posthumes, aphorismes. Qu'est-ce qu'il ferait Nietzsche aujourd'hui? Il prendrait son téléphone portable, pas son BlackBerry. Voilà, il irait toujours dans le grand café autrichien qui sent le bois, boire un grand chocolat chaud et lire son livre sur son papier sur une barre en bois, hein, avec de la musique de Strauss dans les oreilles. Mais il prendrait son portable, il ouvrirait son compte Twitter sur lequel il aurait 5 millions de lecteurs. Vous imaginez les émissions là, 5 millions de lecteurs, et tous les matins vers 9h, il vous enverrait un petit aphorisme. Vous connaissez l'Institut de Twitterature Comparée de l'Université de New York? Non. L'Institut de littérature comparée de l'Université de Montréal? Non plus. Vous connaissez les tweet classes dans l'éducation nationale? Voilà. Il y a plein de choses à imaginer et à inventer. Il y a
encore une demande de prestation. Recommandation.
C'est-à-dire
peut-être la changer de forme. Il y a quand même une attente à un moment donné d'une recommandation parmi une multitude de propositions.
Vous parlez de recommandation par rapport à un spectacle?
Par rapport à un contenu?
Oui. Oui. Ben, par Facebook, par Twitter, par... Enfin, c'est le principe de la communication distribuée. C'est juste... C'est le principe de la communication virale. Dans la communication virale, ce n'est plus vous qui communiquez. Vous lâchez les corpus d'informations sur les réseaux. Qui communique? C'est un point fondamental dans l'histoire de la communication.
Ceux qui réagissent partagent.
Tout à fait. Faire relation publique, relation presse aujourd'hui, c'est pas lâcher, voilà, être dans une position hiérarchique, c'est jeter des corpus d'informations riches dans le réseau. Et faire en sorte que les autres se l'approprient et le partagent à son voisin. Parce que c'est plus simple. Quel est mon prénom?
Adrien.
Voilà. Adrien, par exemple, si c'est mon ami, Adrien. Si Adrien, mon ami, me dit que le spectacle du théâtre de Colombe, c'est génial, je vais le croire beaucoup plus que... Non. Mais en fait, ce que je ne sais pas, parce que je me suis fait avoir, c'est qu'Adrien a jeté des corpus bien appropriés au bon moment pour qu'Adrien les prenne et les transmette.
Oui, c'est ça, mais si moi je vais suivre son compte, par exemple, c'est parce qu'il est prescripteur intéressant.
Oui, oui.
Tout à fait. Au départ, j'étais aussi influencé par... Peut-être le table lui-même, mais pas justement.
Aussi, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc c'est un changement radical, évidemment, mais sans la communication. La communication virale, version méchante, marketing viral.
et neurosciences et neuromarketing.
Ah oui, le neuromarketing, c'est peut-être... Bon, vous ne mettez pas les billets de l'eau.
Ah, c'est normal, que c'est la bible aussi de, des stratégies de communication.
Est-ce que tu peux m'expliquer la notion de tweet class?
Bien sûr. Ah, que j'ai dit, ah, moi que j'explique. Ah, d'accord. L'année dernière, j'ai fait une formation dans un lycée innovant de Rennes, avec des profs d'histoire et de philo. Objectif, leur apprendre à monter une tweet class. Alors, qu'est-ce que c'est une tweet class? Imaginez, vous êtes mes élèves. Et je vais vous demander tous de créer un compte Twitter. Mais attention, un compte Twitter fermé, vous savez, cadenassé. On peut, dans les paramétrages de Twitter, qu'est-ce que ça veut dire cadenassé? Ben, ça veut dire que si... Si Sandrine veut devenir abonnée à mon compte, elle va cliquer s'abonner sur son compte Twitter. En fait, je vais recevoir un message et c'est moi, on retourne au modèle Facebook en fait. C'est moi qui validerai si je veux qu'elle soit mon abonnée ou pas. Donc une tweet class, c'est un prof qui crée un compte, tous les élèves qui créent des comptes, s'auto-valident les uns les autres, et puis après, le prof à 3h du matin, quel est le président de l'histoire des États-Unis? Vous avez 2 secondes. Alors, comme on est à l'ère de la gamification, de la ludification, l'influence du jeu sérieux, l'influence fondamentale des jeux sérieux dans l'histoire de l'éducation, serious game, les gosses adorent ça, parce qu'avec passent leur vie en envoyant des SMS. D'un coup, le prof utilise la même machine et la même logique de fragmentation de l'information. Trop bien. Il est trop moderne, mon prof. C'est ça, la tweet class. Alors, la tweet class, c'est aussi pour porter des contenus. C'est-à-dire qu'un prof va mettre un lien vers un support, vers une vidéo, vers un site web, vers un document à télécharger, vers un plan d'architecture, vers une vieille photo des années 20. Il va nourrir, documentariser l'élève en temps réel et en flux tendu. On s'est aperçu aux États-Unis, parce que c'est une jeune prof de l'Université de Buffalo qui a inventé les tweet class, qu'en fait les gosses, comme ils sont dans cette logique du SMS, du fragment, du jeu vidéo, ils absorbent et les mémorisent 10 fois plus vite que si on leur donnait un cours hiérarchique, linéaire et non hypertextuel. C'est ça le tweet class. Vous tapez tweet class, vous verrez qu'il y a une carte des tweet class en France. À l'école élémentaire, le petit garçon de 7 ans va écrire une phrase. Parce que c'est aussi un outil d'apprentissage de l'écriture, il est obligé d'écrire en 140 caractères. Donc il y a certains profs qui se sont dit c'est génial. Ils n'ont pas envie d'écrire comme ça, mais là par contre on va les faire écrire avec une syntaxe, une grammaire. Et puis après le gosse il tweet à papa. Et les verbes soit. Mon fils.
Il y a les tweetés aussi. Hein? Vous connaissez les tweetés?
Ah bon. C'est la dictée par tweet.
C'est la dictée par tweet, mais en fait, ça suppose une organisation entre deux classes. Et en fait, une classe est validateur et l'autre classe, enfin, ils s'auto-corrigent les uns les autres. Donc en fait, ils font des groupes et ils créent des phrases, comme vous disiez, en 140 caractères par groupe, avec un problème d'orthographe que le professeur leur pose. Et donc, ils doivent résoudre ce problème. Ils discutent entre eux pour savoir quelle va être la
bonne. Est-ce que ça serait une résolution collaborative?
Oui, exactement. Okay. Et après, ils se tweetent les uns les autres et ils se corrigent. Et en fait,
ce qui est très important dans ces logiques, et c'est très important aussi au niveau du spectateur, parce qu'on a, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? L'élève, l'étudiant, c'est des figures. Hein. L'élève, l'étudiant, le spectateur. Qu'est-ce qui est très important? Qu'est-ce qui est le plus important, en fait? C'est que si à mon étudiant, je lui dis, Jérôme, trouve-moi la date. Merci, Jérôme. Il est valorisé. On n'est plus dans la hiérarchie du mépris. Il est valorisé. Merci Jérôme, tu m'as appris quelque chose. Et toi aussi Catherine. Et toi aussi Hélène. Vous valorisez l'individu. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux élus aussi. L'élu qui impose comme ça, il est mort. Aujourd'hui, il est mort. C'est une figure qui va mourir. Regardez, les gens en ont marre des grands leaders. C'est la faillite de la politique aujourd'hui. Par contre, si vous faites de votre citoyen un co-inventeur, ben vous valorisez le citoyen. Vous pouvez bien imaginer que la médiathèque de Lozon, les 350 habitants qui ont pensé la médiathèque pendant 3 ans, ne vont pas se mettre à critiquer la médiathèque qu'ils ont eux-mêmes inventée. Donc la critique politique aussi s'effrite. C'est une validation communautaire, c'est une validation collaborative. Ça n'empêche pas que le maire donne son signe. Mais c'est une validation communautaire. Et donc forcément, les gens sont valorisés et donc ils valident votre projet.
Oui, bien sûr.
Il y a un
échange humain.
Tout à fait. On revient à l'humain.
Vous parlez de la Grèce,
c'est ça. Mais c'est différent de la Grèce, pour moi, de l'Espagne.
Oui.
Parce que la glace, c'est une vieille figure post-staliniste des années 70, Mélenchon, qui a fait une bonne...
Platon.
Oui, Platon. Ah oui, la Grèce, oui. L'Agora. Mais l'Agora, c'est une chose très, très importante. C'est ce que... c'est les propos de Michel Serres. Hein. Michel Serres, moi je faisais des cours à la Sorbonne dans les années 80, avec ce très grand philosophe français, et aujourd'hui 86 ans et 20 ans dans la tête, qui a tout compris du monde d'aujourd'hui, hallucinant. Michel Serres, il nous disait que les aèdes grecs, avant les philosophes, il y avait des aèdes. Qu'est-ce qu'un aède grec? C'est tout simplement l'origine de la philosophie commune avec l'origine du théâtre. On a oublié que théâtre et philosophie avaient une origine commune, c'est des aèdes. C'était des poètes qui avait une capacité mnémotechnique absolument hallucinante. Aucun être humain sur cette planète n'a cette capacité mnémotechnique de retenir les textes. Je connaissais tout l'Iliade, tout l'Odyssée, les 18 000 vers de l'Énéide dans la tête. Et un aède arrivait dans une agora, et il diffusait le savoir à l'oral. Ce qui veut dire que l'origine du prof, si vous voulez, ou du philosophe, c'est le théâtre. C'est l'oralité. Et puis un jour, on a posé cette oralité sur une surface d'inscription. La tablette assyrienne, le papyrus égyptien. À partir de là, Michel Serres nous dit, nous avons commencé à perdre la mémoire. Et l'histoire du savoir, l'histoire du livre, l'histoire de l'inscription, l'histoire de l'inscription du savoir sur les supports, c'est la très longue histoire de perte de mémoire. Michel Serres a une métaphore sublime, il montre un tableau de Saint-Denis. Vous savez, Saint-Denis, il a juste une tête dans la main, Saint-Denis. Pourquoi? Parce que Saint-Denis, c'était un rital. Il venait d'Italie. Et puis il venait faire du prosélytisme chrétien dans la ville de Lutetia. Hein, une sorte de punk. Mais c'est vrai, il était hein. Puis un jour, les Romains le chopent, évidemment, ils coupent la tête, et miracle, Saint-Denis prend sa tête, un dieu, et il la porte. Et bien, pour Michel Serres, le symbole de cette externalisation du savoir, de cette mémoire externe, où on a commencé à perdre la mémoire biologique, eh bien, c'est cette tête. Aujourd'hui, vous imaginez l'accélération, il est où le savoir? Big data. Ah, c'est pas le savoir. C'est pas le savoir. C'est l'information. Mais, bonjour. Et donc, aujourd'hui, ce savoir est considérable, mais il est extérieur à nous-mêmes. C'est ça qui est tout nouveau.
Mais voilà. Il y a aussi le désir de savoir. On est encore à la Grèce, mais il y a le désir de savoir, et ça, on l'a dans les échanges interpersonnels.
C'est vrai. Et
comment concilier justement ce désir de savoir, l'échange individuel, et même le silence et le recueillement où on acquiert le savoir, et puis cette économie collaborative où on peut y accéder.
C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Mais l'économie collaborative, c'est aussi le nouvel ordre industriel. Et l'environnement 3D, c'est ça où il ne faut pas se tromper. Hein. La philosophie d'innovation qui nous est imposée aujourd'hui, elle vient de la Silicon Valley, qui se contrefout de la dimension politique du monde. La Silicon Valley est extrêmement puissante, elle impose une idéologie trop cool. Hein, c'est toujours cool, c'est toujours essayé, c'est toujours bio aussi. Facebook est bio. C'est trop cool, c'est l'innovation, etc. Réfléchissez au modèle écologique du capitalisme ultralibéral des années 60-70, c'est la même chose. Vous savez, l'inventeur de l'imprimante 3D, c'est un physicien quantique de génie au MIT à Boston en l'an 2000, qui s'appelle Neil Gershenfeld, un génie. Un vrai génie, un petit Einstein. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, Neil Gershenfeld? Conseiller privé de Barack Obama pour l'économie. L'inventeur de l'imprimante 3D est le conseiller personnel du président des États-Unis. Est-ce qu'il y aura un truc bizarre là? Le plus grand penseur du post-humanisme, ou du transhumanisme, celui qui dit, dans les 50 prochaines années, il faut que l'homme fusionne avec la machine, l'homme va changer, il va passer de Cro-Magnon à un homme nouveau, qui sera hybridé avec la machine. Les bombes de films, en ce moment, qui sortent, Automata, il y en a plein hein, sur l'intelligence artificielle, les dangers, même Bill Gates a dit, les dangers de l'intelligence artificielle, même Bill Gates, vous imaginez? Eh bien, le grand chantre du post-humanisme, le théoricien, s'appelle Ray Kurzweil. Il a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Humanité 2.0. Il dit que, évidemment, l'intelligence artificielle va prendre le pouvoir sur l'humain. Imaginez, les machines vont nous dominer. Et lui, ça ne lui pose pas de problème, au contraire, il en fait une allégorie. Et il dit qu'il faut y aller. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, Ray Kurzweil? Ray Kurzweil fait quoi aujourd'hui?
directeur scientifique de Google Incorporated. Est-ce que Google serait transhumaniste? Google qui vient de nous sortir des petites pilules l'année prochaine. Vous prendrez une petite pilule en plastique, vous la mettrez sur votre langue et elle vous diagnostiquera toutes vos maladies. Si vous avez des microbes, etc. Google va devenir notre médecin aussi, Guido. C'est pas dramatique, ça? Parce que les maladies, c'est de la donnée et de l'information à transmettre à l'assureur, à transmettre à l'hôpital. Et bien sûr, cette transmission vaudra de l'argent.
D'ailleurs, Agora, ça
devient
aussi marché et vente en
vrai. Tout à fait, c'est le marché, absolument.
Et si on revient sur le spectacle vivant, parce que là, finalement, on a parlé du théâtre, la possibilité de pouvoir créer un lieu collaboratif, quelque chose, on a parlé beaucoup du hall, mais il y a quelque chose où on parle un peu, c'est des salles de spectacle, il y a quand même un petit blocage à ce niveau-là, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on fait ce moment un peu sacré d'un artiste sur scène qui partage avec un public une œuvre. Comment on redéfinit ça? Comment on peut redéfinir ça?
J'ai aucune réponse. Je vous dirais que dans la solitude des champs de coton, c'est Richard Peduzzi, une scénographie bifrontale. D'un coup, les spectateurs voient les spectateurs. Révolutionnaire aussi, ce genre de choses. Les scénographies circulaires, je n'ai pas de réponse à ça. Ça vient des metteurs en scène. C'est les metteurs en scène qui doivent travailler sur une autre relation spectateur, une autre relation gravin. Hein, c'est un travail, là aussi, très intéressant, à l'heure de la société collaborative, est-ce que j'ai le droit de faire du bruit dans la salle? Ah non, pour le théâtre. Le théâtre, c'est silencieux. Vous savez, c'est comme les bibliothèques autrefois. Dans les années 80, quand on rentrait dans une bibliothèque, moi j'étais à Orléans, j'étais à la bibliothèque municipale d'Orléans, dirigée par Georges Bataille, immense philosophe. Et je faisais ça, j'avais 12 ans. Vous savez, comme le parquet qui sent le cire et... Le théâtre, c'est quand même un lieu de silence.
Oui, et c'est le seul lieu aujourd'hui où les gens jouent le jeu, enfin, jouent le jeu. On leur demande d'éteindre leur téléphone portable.
C'est ça.
Ça n'arrive jamais à d'autres moments de leur vie, peut-être la nuit, certains.
Et pourquoi vous demandez aux gens de prendre leur téléphone portable?
Parce que c'est très dérangeant.
Pourquoi?
Parce que nous, on a la chance d'avoir un théâtre où les gens se sentent un peu comme chez eux. C'est super. Sauf que c'est vrai que quand on a un internet, on détourne dans la salle.
Oui, et si vous ça se dit,
est-ce
que
vous
bah, il suffit de dire autorisé, sinon téléphone portable autorisé, mais sans sonnerie.
Mais c'est pareil, la lumière elle est très lente. Alors, on a le noir sale qui est un focus qui fait sur le plateau.
Ouais.
Tous les petits écrans lumineux, voilà, sont.
Moi j'ai un ado, il me parle. Il me parle. Donc il me parle, salut, ça va, tu vas bien? Ouais, bien sûr. Ouais. Vous avez tout vu ça dans les médias. Vous en avez sûrement autour de vous, les petites nièces, les petits neveux, qui vous parlent, ils envoient 60 SMS tout en vous parlant. Alors vous avez l'impression qu'ils ne vous parlent pas. Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas concentrés. Faux et archi faux. C'est leur génération. Ils sont capables de jouer et de. Je le fais souvent en formation, de raconter mon fils derrière sa machine quand il avait 14 ans. Et on raconte. Ça parle sur vos futurs publics. Parce que ce dont je vous parle, c'est vos futurs publics. Comment vous allez faire pour faire venir mon fils Pierre au théâtre? Bonne chance. Franchement, bonne chance. J'ai 8000 volumes chez moi. J'ai une bibliothèque de théâtre. Que dalle. Vous voulez que je vous le décrive, la créature numérique, le spectateur du 21e siècle, vous le décrive? Il avait 14 ans. Il est dans le salon. Je l'ai fait ça avec. C'est marquant quand même. Donc il est dans le salon. Il a son ultra portable. Et bien sûr, connecté au Wi-Fi plein pot. Il est en train de jouer au jeu massivement multijoueur Warcraft 3, sur lequel il a un avatar de lui-même, c'est-à-dire un petit personnage. Cet avatar, c'est son cadeau d'anniversaire, pour ses 13 ans. Oui, parce qu'à 13 ans, je lui ai demandé, tu veux quoi comme cadeau d'anniversaire? Il me fait avec sa voix qui mule, 13 ans. Je veux un avatar de Warcraft. Un avatar de Warcraft, explique-moi, donc je vous explique, hein. Quand vous jouez à ces jeux massivement multijoueurs et vous débutez un jeu, votre avatar est nul. Il n'est pas bon, il n'est pas fort. Et c'est en jouant que vous allez acquérir de la puissance, des armes, etc. Et donc aux États-Unis, vous avez des éleveurs d'avatars qui vous vendent des avatars. Jusqu'à 15 000 dollars l'avatar. Le mien m'a coûté 110 euros, il a intérêt à jouer. Donc il joue à Warcraft 3. Juste derrière Warcraft 3, Facebook, 690 contacts, 685 filles. Il chatte. À droite de Facebook, encore à l'époque ça existait, avant le rachat par Skype, par Microsoft, MSN Messenger, là c'est que ses copains. Ça va? Tu continues? Ah, comment dire, à droite de son ordinateur, la machine la plus importante d'un adolescent européen et la machine la plus importante d'une stratégie de communication théâtrale aujourd'hui. Ça, c'est d'abord ça, les technologies nomades en temps réel. Alors on a ça, sur lequel il reçoit quoi? En permanence des flux, le SMS, en permanence. Quand je sais déjeuner, moi je fais portable, parce que sinon je ne déjeune pas. Donc flux SMS, il est dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a dans le salon? Ben oui, le flux audiovisuel sur une émission hautement intellectuelle, Secret Story. Ben oui, et il aime bien la musique, alors il a aussi son iPod, sur lequel il écoute le groupe génialissime Sexy Sushi. Le groupe génialissime Sexy Sushi. Le groupe mantel génialissime Sexy Sushi. Donc je vais faire résumer. Hein. Warcraft 3, jeu massivement multijoueur, immersif, 3D, avec avatar. Flux des réseaux et des médias sociaux, Twitter, Facebook en permanence en temps réel. Chat, chat MSN Messenger, flux textuel, de fragments textuels du SMS, flux auditif de la musique et flux audiovisuel de la télé. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il fait cette voix. Oui, parce que devant, vous voyez, devant son ordinateur, il y a un truc en papier. Ça s'appelle livre d'histoire. Il est ouvert, vous voyez. Alors moi, forcément, à l'époque, je vais prendre trois Valium, me colle contre la tête, respire, être le plus sympa, le plus doux, le plus âme. Voilà, je me penche doucement vers lui, je me dis, comment tu fais pour te concentrer? Dans le concentré, il y a le mot concentré, c'est sûr, et il y a le mot centré. Et là, il me donne, si tu en veux, j'ai 16 de moyenne générale. Qu'est-ce que je dis? Je dis quoi? Que c'est pas bien qu'il va... Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et ça c'est fondamental dans les stratégies de communication. Il n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps parce que les scientifiques ont prouvé que le multitask, multitâche, c'est faux. C'est faux. On n'est pas capable de faire. Par contre, il est capable de gérer plusieurs flux d'informations en simultané sans perdre le sens des choses. Cette remarque devrait vous faire réfléchir sur les stratégies de communication à venir d'un théâtre. Il est capable de gérer plusieurs flux d'informations en temps réel, dans l'espace urbain, pendant qu'il marche. Vous croyez qu'un jeune de 15 ans, il va aller voir le site du théâtre de Colombes? Ah tiens, aujourd'hui, je me mets derrière mon bureau, j'ouvre mon navigateur préféré Firefox, et je tape Théâtre de Colombes. Voilà. Et je vais aller voir le programme. Non, mais ça, c'est les seniors qui font ça. Qu'est-ce qui fera venir le gosse de 20 ans, mon gosse? C'est que quand il va passer dans la rue, là, il reçoit un truc, un SMS, un tweet, un truc qui lui dit « Ouais, si on a un groupe de rock ce soir, ne le loupe pas. » Hein? Mais c'est la même chose qu'autrefois, là, au café, il lui dit « T'as vu le groupe, là, machin ?» C'est ça qui le fera venir. C'est le temps réel. Parce que le gosse, 3 heures avant, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Et je pense qu'il y a certains d'entre vous, et certains d'entre vous assez jeunes ici, qui savent de quoi je parle, parce qu'ils le vivent, eux, le font. Je sais pas, parce que c'est la grande problématique, est-ce qu'on doit autoriser le téléphone?
On le tombait dans un café. Enfin, parce que c'est vrai que la lumière peut déranger, mais...
Par rapport à ça, moi j'ai une image qui me reste dans la tête. Il y a quelques années, j'étais aux arènes de Nîmes, et j'étais voir un groupe génial, Vampire Weekend, un couple que j'adore, qui brille tout, voilà, un groupe hybride, encore une fois. Eh bien, alors, c'était les arènes de Nîmes, avec les CRS tout en haut, qui contrôlent de tout. Et puis, la lumière chante et les stars arrivent. À l'entrée des arènes de Nîmes, il y a une grosse pancarte avec un appareil photo et une croix, une caméra et une croix, les Cerbères, les Hells Angels qui font les Rudy, et les CRS. C'est interdit de filmer et de capter. Attention, hein. La lumière chante et le groupe arrive sur scène. Et là, je vois que j'ai des taureaux, hein. Je t'accuse d'un CRS. Ça va. Et j'étais tout en haut, et la lumière chante, et là, 1500 téléphones portables qui se... C'est extrêmement impressionnant. Et ça commence, et ça capte, hein, et ça... Captation. Qu'est-ce qui fera connaître Vampire Weekend? La stratégie de communication des arènes de Nîmes, ou les 1500 téléphones qui vont Facebooker, tweeter, s'interconnecter, se... Hein, donc ça pose quand même la question de l'usage du mobile dans un théâtre, je vous dis tout de suite, par rapport aux jeunes générations.
Les jeunes générations, ils aiment bien l'image crade. L'image qui trempe, d'ailleurs, les publicitaires aussi, pas trompés, quand on regarde les publicités free, le type à la barre, l'image tremblotante, hein. Ils aiment bien les images, les fausses images amateurs. Ça devient carrément une esthétique aux États-Unis, cette idée de l'image amateur, de la fausse image amateur, hein. Du faux film amateur capté, du faux voyeurisme. Tout ça, c'est des données culturelles. Vous ne pouvez pas les exclure de votre travail sur la communication et la médiation. Ah, totalement bien. C'est un vécu. Je pense. Voilà. Je me sens un petit peu... À TML Lab, ah, 10 ans de boulot, là. Parce que là, il y en a plein des sujets à traiter. Plein. Par exemple, c'est une question très intéressante, ça. Qu'on pourrait se poser la question. Faut-il autoriser les mobiles dans les salles de spectacle? Ça a l'air tout bon comme ça, mais alors les mobiles, hein, alors vous mettrez les pour, les contre sur des post-it, hein? Non?
Il faut se poser la question avant, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Parce que, nous, dans les personnalisations qu'on fait, il y a des portables qui circulent, c'est très bien. D'ailleurs, c'est beaucoup plus partagé. En fait, c'est vrai que... De la médiation, il y en a partout dans tous les théâtres, mais c'est vrai qu'il faut chercher l'information, généralement c'est pas la première qu'on trouve. Nous on a quand même remarqué à Chaillot que ce qu'on partageait dans les actions de médiation, les moments de partage, les moments de convivialité, le partage de repas, c'est très partagé sur les réseaux sociaux. Après, on n'autorise pas le mobile dans la salle de spectacle, on parle de la danse, du théâtre, donc en effet, les lumières, etc., ça dérange. Mais avant de se poser la question de savoir si on les autorise, savoir comment on va gérer l'information après, qu'est-ce qu'on puisse modifier, qu'est-ce qu'on fait avec, surtout.
C'est que la musique
est arrivée.
Des outils de modération qui sont très au point, et il y a des manières de faire en sorte que la lumière rétroactive soit moins forte, pour justement pas déranger autour de toi. Et ça se voit dans les salles de concert sans arrêt. Et sincèrement, ça va complètement être adapté au théâtre.
On a une community manager depuis très peu de temps, on a aussi, c'est ça. Je parlais dans le sens de la stratégie.
Okay. Parce que ce qui freine les théâtres, c'est l'irréputation, parce qu'on va, je pense tout de suite, qu'on va descendre un spectacle ou faire
mettre
un
oreille.
C'est
la barrière.
La grande peur, c'est la vulgarisation. C'est la personne qui va reprendre le propos et qui va le mettre à sa sauce. Et du coup, il va peut-être dévaloriser le propos du metteur en scène, du scénographe. Et c'est ça, je pense, la plus grande peur. Oui. C'est pas le fait que ça va être descendu.
C'est vrai, mais ça va être aussi, le spectateur va aussi reprendre le propos du metteur en scène, le vulgariser, mais tellement bien vulgariser qu'un autre citoyen qui serait jamais au théâtre va comprendre que ça peut être intéressant. Vous voyez? Ça veut donc dire que le spectateur peut être aussi un intercesseur, un prescripteur, parce qu'il aura une parole plus pédagogique que Grégoire ou... Oui. Parce qu'il va vous raconter le spectacle d'une autre manière. Vous imaginez si je commence à vous parler des problématiques métaphysiques de Hamlet. Je peux faire du Hamlet, de la énorme Müller, de tout ce qu'on veut. Hein. Et si par contre quelqu'un qui n'a jamais vu Shakespeare de sa vie, quelqu'un lui dit, lui raconte l'histoire de manière, je comprends, c'est un type, il se pose des questions sur sa vie, c'est très vulgarisé. Et c'est peut-être ça qui va faire venir finalement le spectateur.
Au final, c'est accessible, il faut arrêter de penser que la personne n'y arrive pas. Dans ce cas-là, j'arrête pas de me dire. Et arrête, tu vulgarises et les gens, ils ont peut-être pas le niveau pour comprendre et ils vont se faire chier pendant des pièces de spectacle.
Parce que si vous dites qu'il y a quelqu'un qui, tout à fait, qui connaît rien à Shakespeare, selon Shakespeare, il ne sait pas que toutes les pièces de Shakespeare ont servi de matrice à la plupart des grands scénarios d'Hollywood. West Side Story. Et finalement, les pièces de Shakespeare, c'est une narration des personnages, de l'action, de la baston, du comique, du sexe. C'est ça les pièces de Shakespeare, c'est juste Hollywood, non?
Au final, il y a aussi toujours une question de, je pense, de mixité sociale et de la diversité des publics.
c'est-à-dire que toutes les institutions culturelles sont confrontées à cette problématique de la diversité des publics et on a tendance à les segmentariser pour simplifier la communication. Et on va faire une communication pour les jeunes, pour les plus âgés, etc. Et donc, du coup, forcément, tout ce dont vous venez de parler, de logique collaborative, efface totalement ces hiérarchies, efface totalement ces segmentarisations publiques. Du coup, ça met par terre forcément toute une stratégie. Et effectivement, comme tu disais, à Chaillot, peut-être que certains spectateurs vont arracher des téléphones portables d'autres spectateurs parce que ce ne sera pas les mêmes spectateurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sépare les gens? Le théâtre, c'est aussi une stratégie.
Vous voyez, vos propos, moi, sonnent autrement dans ma tête. Ouais. Vos propos, c'est pour moi, est-ce qu'un théâtre est un lieu intergénérationnel? Comment faites le lien entre les adolescents et les seniors? Qu'est-ce que vous mettez comme dispositif de médiation pour d'un coup dans une salle, il y ait 150 ados et 150 seniors? Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Vous voulez que je vous raconte ce qui se passe à la médiathèque de Saint-Avertin, près de Tours, seule médiathèque en Europe à être dans un château de la Renaissance, ultra moderne à l'intérieur, très classique et patrimonial à l'extérieur. À la médiathèque, il y a la petite Alice Bernard, une bibliothèque. Les bibliothécaires les plus innovantes de France, une cinquantaine comme ça en France, elle monte des ateliers intergénérationnels de jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez voir que ça, c'est pas, je pense que ça parle. Elle va voir le gosse qui s'appelle Kevin, 14 ans. Oui, il y a plein de Kevin, Kevin Costner. Et puis ce gosse, Kevin, il passe sa vie sur les jeux immersifs, sur les plateformes de jeux en ligne, il passe sa vie. Alors sa mère, ses parents, ils ne savent jamais rien. T'es un addict. Tu passes ta vie dans les réseaux. Là, vraiment, on est dégoûté. Alice, elle fait pas ça. Alice, elle dit, Kevin, viens, tu sais faire fonctionner les jeux vidéo, la Xbox, la PlayStation, la Wii. J'ai besoin de toi. Le gosse qui a 14 ans, fait toujours que c'était une sous-merde. Et tout d'un coup, elle lui dit, j'ai besoin de toi. Alors là, tout de suite, il y a un phénomène de valorisation. Et elle présente Kevin à Hervé. Hervé, 78 ans. Et elle dit à Kevin, tu vas apprendre à Hervé à jouer aux jeux vidéo. Il est content parce que c'est le gosse qui va lui apprendre. Alors ils vont jouer à Call of Duty. Ils vont jouer à Call of Duty qui raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors il joue, bah, alors il ne connaît rien. Hein. Alors il veut tuer de Bosch, parce qu'il a 78 ans forcément. Ça fait 20 ans qu'il lit les mémoires de Gaulle, qu'il va à la médiathèque en Jean Lacouture. Il a une connaissance experte, bah, c'est sa jeunesse forcément. Il a une connaissance experte de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quant à l'autre, Kevin, il a une connaissance experte des jeux interactifs immersifs. Et là, il commence à jouer. Non, forcément, hein. Comment je tue le boche? Comment je le vise? Là, Kevin, dis-moi. Ah ben là, Pépé, tu fais ça, et là, tu zooms et tu tues le boche. Forcément, Pépé, il arrive tout doucement. Et puis Pépé commence à jouer, il dit, c'est le siège de Stalingrad, ça. Oui, c'est 23 juillet 1943, la porte sud des Panzer SS, ça c'est un bataillon. Et là, il y a Kevin qui dit, hein? Le quoi? Le siège de Stalingrad. Et voilà Hervé qui apprend à Kevin la Seconde Guerre mondiale. Transfert de compétences. Alors Hervé, il est ravi, vous savez pourquoi? Parce que quand il rentre à la maison, il a deux petits-enfants. Il sait jouer à la Xbox. Allez les gars, je vous prends la Call of Duty. Vous voyez comment ça peut avoir un impact sur la famille aussi, sur les réseaux sociaux. Je continue, je m'appelle. Il se trouve qu'au CHU de Tours, un chercheur scientifique et médecin s'occupe de la maladie d'Alzheimer. Dans un réseau mondial de chercheurs autour de la maladie d'Alzheimer. Et ils se sont aperçus que si on fait jouer les seniors atteints de maladie d'Alzheimer à des jeux, des plateformes Xbox, Wii ou aux jeux, on ralentit par 10 le développement de la maladie, car on fait travailler les synapses dans un réseau synaptique affaibli. On fait travailler autrement, en hypertextualité, les synapses. Vous voyez tous les faits que peut avoir le petit atelier d'Alice Bernard à Saint-Avertin dans la caveauté du Moyen-Âge, où elle a juste dit, Kevin vient là, Hervé vient là, je vais là, et elle va voir l'effet. C'est ça, le lien que vous devez construire. Alors après, ça c'est la traduction de bibliothèque. Quelle serait la traduction théâtre en médiation? Eh bien peut-être une médiation intergénérationnelle un peu plus poussée. À travers quoi? Les technologies peut-être, les drones, je ne sais pas, un truc à faire dans le rôle. Pour que les enfants rencontrent, les enfants des jeux vidéo rencontrent les seniors, qui adorent Skype. Oui, parce qu'ils peuvent parler des enfants. Oui. Ah, mais ça veut dire que Skype pourrait être un outil commun entre employés. Voilà.
On va s'arrêter là parce que c'est bien de se nourrir à un moment. Ce serait bien que vous nous disiez si vous restez cet après-midi jusqu'en heure pour qu'on voilà, qu'on a un peu une idée pour préparer la salle. Si vous souhaitez déjeuner, on va former des groupes pour aller juste sur le centre-ville à côté et la reprise de la télé sera aux alentours de 13h30. Voilà.
Voilà.